La manière dont la justice est administrée dans la campagne est un véritable fléau pour ses habitants. Cette phrase donc est extraite d'une brochure rédigée au tout début de la Révolution, en plein débat sur la réforme de la justice, en dit long sur l'opinion véhiculée à l'époque sur la justice seigneuriale, du moins dans une partie de la population. En réalité, la critique n'était pas nouvelle. Critiquer les justices seigneuriales au moment de la Révolution, ce n'était pas quelque chose de nouveau, puisque près de 200 ans plus tôt, le juriste Charles Loiseau, dans un célèbre ouvrage consacré aux justices des seigneurs, décrivait déjà les multiples abus des mangeries de village. L'expression est assez cruelle. Par la suite, les officiers, les administrateurs royaux, tout particulièrement les intendants, ont été assez féroces à l'égard de ces justices seigneuriales. Et ils ont contribué à leur tour à forger la légende noire des justices seigneuriales. Laquelle, légende noire, a été reprise par bon nombre d'historiens à partir de la fin du XIXe siècle. Je citerai deux exemples. La thèse d'André Giffard sur les justices seigneuriales en Bretagne, parue en 1902. Ou encore, je vous conseille d'aller faire un tour dans le fameux dictionnaire des institutions de Marcel Marion, donc à l'article consacré à la justice seigneuriale. Vous verrez également qu'il y a un parti pris et ces injustices sont vraiment descendues ou en tout cas vivement critiquées. Alors, je voudrais justement montrer dans cette communication que les critiques que l'on a longtemps adressées aux justices de village n'ont désormais, à mon avis, plus lieu d'être et qu'en conséquence, les historiens auraient intérêt à se pencher sur les fonds de ces justices. En particulier quand on veut travailler, et c'est le thème donc de ce séminaire, sur les conflits et sur les violences qui avaient cours dans les campagnes françaises avant la Révolution, ces archives sont d'un très grand intérêt. Pour être plus précis encore, je dirais même que pour étudier minutieusement, en étudiant minutieusement les sources produites par les justices seigneuriales, et j'irai même au-delà du XVIe siècle, on peut commencer dès le XIVe siècle, je vous parlerai d'une thèse qui a été réalisée il y a peu de temps sur cette période-là, il est possible d'apporter des éléments, je pense, relativement nouveaux sur ce thème effectivement essentiel des violences et des conflits dans le monde rural. Les travaux, ou plutôt les sources effectivement produites par les justices seigneuriales, permettent à mon avis de répondre à cette question fondamentale, à savoir les sociétés du passé étaient-elles violentes, et en particulier les sociétés rurales. Alors, un petit panorama historique, bibliographique rapide donc sur ce thème de la violence. Je ne veux pas trop insister parce que Benoît Garneau a déjà évoqué en détail ce thème et ce compte-rendu ou cette mise au point historiographique. Il faut savoir effectivement que depuis une quarantaine d'années, qu'on travaille vraiment sérieusement sur ce thème, donc cette problématique au passage très riche et très complexe de la violence, en gros il y a deux constats principaux qui sont apparus. Le premier, donc, c'est l'idée que la violence serait au cœur des relations humaines, des sociétés anciennes et sous des formes multiples. Dès la fin du Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, beaucoup d'historiens considèrent que la violence aurait un caractère endémique, aussi bien en ville qu'à la campagne. Dit autrement, je cite, « elle serait partout où s'organise la sociabilité ordinaire, elle serait banale, quotidienne et constituerait un fait de civilisation ou encore une dimension de la culture. » Deux citations qui montrent bien effectivement cet esprit-là. Michel Petitjean, dans un colloque organisé à Dijon sur la petite délinquance, affirmait ainsi, je cite, « La criminalité médiévale et d'ancien régime présente un caractère assez fruste, reflet d'une société elle-même fruste et brutale, où les conflits sont fréquents et dégénèrent facilement. Les statistiques font ressortir un très fort pourcentage de violences verbales et physiques. » Romer Buchemblé, de son côté, a pu parler de la brutalité sanguinaire banale de la fin du Moyen-Âge. Ou encore, je cite, « comme la mort, comme le cimetière qui est au centre du village, la violence est au cœur de la vie au XVe, XVIe et XVIIe siècle. » D'après lui, avant le milieu du XVIIe siècle, je cite encore, « la violence fait réellement partie du style de vie ordinaire, surtout dans les campagnes, comme en témoignent les conditions et les circonstances dans lesquelles elle s'exprime le plus souvent. » Alors, même si certains historiens, en particulier Claude Gauvard pour le Moyen-Âge et Benoît Garneau pour l'Ancien Régime, ont quelque peu nuancé ce tableau particulièrement sombre, on peut donc dire qu'une tradition historiographique encore très prégnante suggère des sociétés du passé très violentes. Deuxième grand constat, et ça c'est beaucoup plus récent, plusieurs travaux menés à l'échelle de l'Europe entière, à travers des exemples pris en Angleterre, en Espagne ou en Italie, et là centré sur une approche vraiment quantitative, statistique de la violence interpersonnelle, tendent à montrer que les sociétés anciennes sont devenues de moins en moins violentes entre la fin du Moyen-Âge et le XVIIIe siècle. un constat qui repose essentiellement sur le taux d'homicide dont vous a parlé ici même Michel Nassier au tout début du séminaire. Alors, par rapport à ces deux positionnements, ces deux questions, donc la place de la violence dans la société et je dirais même son importance numérique, j'ai donc choisi de mon côté de me pencher du côté donc des sources, des fonds, des justices seigneuriales. Donc, ce parti est relativement osé, il est relativement neuf. Un très peu d'études, effectivement, portant sur la violence se sont basées uniquement sur ces sources, qui, effectivement, constituent un ensemble archivistique relativement peu utilisé pour l'instant. Donc, je serai amené à présenter le fruit des résultats de mon travail, donc de ma thèse, et également un certain nombre de travaux réalisés sur les justices seigneuriales depuis le XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, ma période choisie est relativement longue, relativement importante. Je dirais que c'est un ancien régime relativement large. Je préciserai également que, contrairement à Benoît Garneau, qui ici même a traité la question plutôt sous l'angle qualitatif, mon approche sera davantage quantitative. Alors, bien sûr, je n'ignore pas les problèmes et les difficultés que posent les mesures effectuées à partir des archives judiciaires. Ainsi, j'ai bien conscience qu'en matière de violence, comme de criminalité en général, la distorsion, je cite Benoît Garneau, la distorsion est grande entre le tableau que présentent les archives judiciaires et la réalité des faits. Je considère cependant qu'il n'est jamais inutile de compter, hein, quand on fait de la recherche, et que les chiffres produits sur la violence en particulier, à partir des seules sources des justices seigneuriales, eh bien, sont susceptibles d'apporter un regard relativement neuf sur la question. Alors, avant de vérifier cela, je voudrais d'abord faire un point historiographique sur ces fameuses justices seigneuriales en France qui, effectivement, depuis une vingtaine d'années, sont véritablement au cœur d'un profond renouvellement historiographique. Donc, ce sera mon premier point, ma première partie, donc cette mise au point historiographique sur ce qu'on sait désormais sur les justices seigneuriales. Alors, depuis effectivement une vingtaine d'années, huit thèses exactement, depuis 1995 pour être précis, huit thèses exactement ont porté exclusivement sur les justices seigneuriales. Alors, comme on le voit dans ce tableau, les justices seigneuriales n'étaient pas très à la mode jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc, la première grande thèse sur le sujet, donc, c'est celle d'André Giffard sur la Bretagne, 1661-1791, une thèse extrêmement critique, hein, et cette critique d'ailleurs a pesé très lourd pendant très longtemps. 1933, Pierre Lemercier, 1942, 1947. Et je dirais la première thèse qui a commencé un petit peu à défendre, ou en tout cas à réhabiliter les justices seigneuriales, c'est celle de Pierre Villard sur la marche au XVIIIe siècle. Donc relativement peu de thèses dans la première moitié du XXe siècle sur les justices seigneuriales proprement parlées. Et vous voyez que depuis 1995, il y a un petit emballement, hein, le premier Patrice Tessier en 1995, donc, et puis par la suite, une thèse en 2001 d'un historien anglo-saxon, en l'occurrence canadien, qui a fait sa thèse aux États-Unis. Et puis ensuite, plus récemment, vous voyez, 2004, Viviane Genot, etc. Moi-même, donc, en 2006, à l'Université de Tours. Et puis, plus récemment, une thèse à Montpellier, une thèse à Nice. La thèse d'Isabelle Mathieu, que vous connaissez peut-être, donc, relativement récente et qui ouvre des perspectives intéressantes parce qu'elle couvre une période relativement peu étudiée, le 14e, 16e siècle. Et puis, encore récemment, l'école des Chartes, donc, une thèse d'Olivier Wagner sur une période également peu étudiée, à savoir le 17e siècle. Donc, ça veut dire que, vous voyez, désormais, grâce à toutes ces thèses, quasiment toutes les périodes sont couvertes depuis la fin du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle. On voyait que pendant très très longtemps, le XVIIIe siècle était la période la plus étudiée. Désormais, on est quasiment en mesure d'avoir un panorama complet de toutes les époques concernant ce sujet. En dehors de ces huit thèses consacrées donc uniquement aux justices seigneuriales, il faut également citer un certain nombre de thèses qui portent en partie seulement sur les justices seigneuriales, parmi lesquels on retrouve également deux thèses d'historiens anglo-saxons. Vous voyez que ce sujet intéresse aussi les Américains. La thèse de Zoé Schneider, justement, sur la Haute-Normandie. Et puis, une thèse également de Krubock sur l'Aunis et le Saintonge. Alors, comme tout à l'heure, vous remarquez que c'est quand même plutôt des thèses en histoire du droit. Hein, les historiens purs, entre guillemets, sont relativement peu présents. Et d'ailleurs, ça peut être contribué à avoir une vision un peu biaisée des justices seigneuriales, parce que la plupart du temps, ces thèses n'allaient pas, comme on le fait maintenant, je dirais, à la source, se contentaient souvent de reprendre des archives extérieures, notamment produites par les officiers du roi et qui étaient par définition beaucoup plus critiques à l'encontre des justices seigneuriales. Et enfin, pour terminer ce tour d'horizon, on pourrait également ajouter donc à ces thèses plusieurs thèses ruralistes qui ont abondamment utilisé les sources des justices seigneuriales. Je pense notamment à la thèse de Laetitia Cornu sur le Velay à la fin du Moyen Âge, qui a beaucoup utilisé les archives des justices seigneuriales, ou encore, je pense à la thèse de Pierre Charbonnier sur la Basse-Auvergne du XIVe au XVIe siècle, qui lui aussi a abondamment puisé dans les archives des justices seigneuriales. Et puis enfin, pour finir, je vous signalerai la publication d'un ouvrage très important, d'un ouvrage de synthèse très important sur le sujet, issu d'un colloque organisé à Angers en 2001 par Antoine Follin, qui s'intitule Les justices de village, administration et justice locale de la fin du Moyen Âge à la Révolution, paru aux presses universitaires de Rennes en 2002. Pour tous ceux qui voudraient commencer par étudier ce thème des justices seigneuriales, je vous conseille vraiment de commencer par cet ouvrage. L'introduction notamment de Pierre Follin, qui fait une quarantaine de pages, est lumineuse et elle comporte une bibliographie très importante. Donc c'est, je dirais, le livre incontournable pour commencer sur le sujet. Donc à la suite de tous ces travaux, donc de ces quelques thèses, de cet ouvrage de synthèse, on a désormais effectivement une vision totalement renouvelée des justices seigneuriales par rapport à ce qu'elles étaient ou à l'image que l'on avait au début de la Révolution ou encore jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc ces justices seigneuriales, elles sont apparues bien évidemment autour de l'an 1000, au temps de la féodalité. Et premier point qui témoigne que ces justices n'étaient peut-être pas si mauvaises que ce qu'on a dit, elles ont eu une période d'existence relativement longue, puisqu'elles ont continué à fonctionner, donc de l'an 1000 jusqu'à la fin de l'année 1790, donc jusqu'au tout début de la Révolution. Elles ne sont pas mortes au moment de la nuit du 4 août, en fait, elles ont continué à fonctionner, en gros, jusqu'en octobre-novembre 1790, le temps que la transition se fasse avec les nouvelles justices qui allaient les remplacer. Deuxième point, donc des justices qui ont fait preuve d'une longue longévité, et également des justices qui, contrairement à ce qu'on a pu lire souvent, et notamment dans les manuels de droit, des justices qui n'ont pas connu un déclin inexorable sous les coups de boutoir de la monarchie, qui au passage, quand on regarde les choses un peu plus près, n'ont jamais cherché vraiment à les supprimer, mais plutôt à les intégrer, hein, dans le système judiciaire en place. Donc ces justices, elles ont fait montre en réalité, quand on étudie leurs archives de près, d'une très belle vigueur. Et même dans certaines régions, on constate que dans les années qui précèdent la Révolution, on observe un regain de vitalité de ces justices seigneuriales, peut-être dans le cadre de cette fameuse réaction seigneuriale, bien sûr, une thèse à prendre avec beaucoup de précaution. Alors, cette longévité, donc plus de 700 ans, s'explique à mon avis par la qualité et par l'utilité de ces justices seigneuriales. Alors la qualité, d'abord, je pense qu'elle est due essentiellement à la compétence du personnel qui était à leur tête. Alors, on a longtemps critiqué ces officiers seigneuriaux. En réalité, la critique, à mon avis, n'est pas valable, puisque quand on observe effectivement le fonctionnement de ces justices, on constate, pardon, que ce personnel est tout à fait compétent. Alors la compétence, elle est théorique, puisque effectivement ces juges seigneuriaux devaient être gradués en droit. Et dans les faits, ils le sont vraiment, et ce, dès la fin du Moyen Âge. Hein, c'est ce qu'a pu observer, par exemple, Isabelle Mathieu dans Le Maine et en Anjou. Dès la fin du Moyen Âge, les juges sont gradués, ont donc toutes les qualités requises. Ce n'est pas seulement une compétence théorique, la compétence, elle est bien réelle, parce que quand on observe les documents, eh bien, on constate que les juges de village connaissent parfaitement et appliquent parfaitement les règles de droit et les règles de procédure en vigueur à l'époque. Les justices seigneuriales, une formule un peu triviale, ne sont donc pas des justices d'opérette comme on a pu les présenter parfois. Ce sont bien des justices professionnelles, des justices avisées et tenues par un personnel totalement compétent. Deuxième point, ces justices, elles étaient également très utiles. Car à côté de la justice royale, et non pas contre, hein, on a longtemps opposé les deux, à mon avis, les deux justices, les deux types de justice royale et seigneuriale étaient parfaitement complémentaires. Donc ces justices étaient utiles parce que dans les campagnes, notamment, elles intervenaient dans des domaines extrêmement variés. Dans le domaine de l'administration et de la police, hein, ce qu'on pourrait appeler le maintien de l'ordre public, ces justices étaient très utiles dans ce domaine-là. Elles avaient un rôle également dans la justice dite gracieuse ou volontaire. Donc ça, c'est tout ce qui a un rapport avec le droit des familles, les tutelles, les curatelles, les scellés. Et puis enfin, bien évidemment, ces justices, et ce sera le sujet précisément du jour, intervenaient dans le règlement des conflits, c'est-à-dire effectivement le contentieux, hein, le règlement du contentieux, que ce soit par la voie civile ou criminelle. Ce sont donc des justices qui avaient des compétences extrêmement larges, des compétences qui étaient à la fois judiciaires et extrajudiciaires. En somme, pour finir sur ce premier point, si ces justices ont sans doute été conçues à l'origine comme des armes, entre guillemets, entre les mains des seigneurs, eh bien, elles ont su petit à petit, progressivement, se mettre au service de l'intérêt général. Elles ont joué, entre autres choses, un rôle de premier plan dans la régulation sociale, et notamment dans les campagnes. En un mot, je dirais qu'elles sont devenues, tout particulièrement dans les campagnes, encore une fois, de véritables justices de proximité, pour reprendre une expression redevenue à la mode depuis peu. Alors, cette proximité des justices seigneuriales tient, à mon avis, à trois choses, à trois éléments. D'abord, la proximité, elle était géographique. Je vais vous le montrer à travers quelques cartes. Elle était également temporelle. Et enfin, la proximité des justices seigneuriales était, à mon avis, alors, je ne peux pas trouver un mot meilleur, je dirais relationnelle, dans la relation qui pouvait exister entre les justiciables et cette justice. Donc, d'abord, une proximité géographique. Ça va plaire aux géographes. Donc, avant la Révolution, effectivement, les tribunaux seigneuriaux étaient extrêmement nombreux. Alors, quelques exemples pour le XVIIIe siècle. En Bourgogne, par exemple, on comptait à peu près une justice seigneuriale par paroisse, soit environ 600 à 800 habitants par justice, par tribunal. Dans le Forez ou en Touraine, on trouvait à peu près une justice seigneuriale pour deux paroisses. Dans le Gévaudan, on a une moyenne de 1,3 justice seigneuriale par paroisse, soit 5 justices pour 4 paroisses. Et puis un dernier exemple, dans le Poitou, on a une proportion d'une justice seigneuriale pour 3 paroisses. Donc si on élargit ces résultats ou ces exemples régionaux à l'ensemble du royaume, on peut considérer, avec toute la prudence bien sûr qui s'impose, qu'il existait à peu près 40 000 justices seigneuriales à la fin de l'Ancien Régime. Donc 40 000 justices seigneuriales, c'est sans doute un peu moins que ce qu'on lit parfois. Il y a des ouvrages où on parle de 60 000 ou 80 000 justices seigneuriales. Pour moi, le chiffre est trop élevé. 40 000, je pense, ça me paraît être le chiffre le plus raisonnable. Quand on sait qu'à l'époque, il y avait à peu près 1 500 justices royales, hein, ça nous fait donc une proportion ou un rapport de 1 pour 27. Alors, quand on observe maintenant là, parce qu'elles pourraient être nombreuses, mais toutes localisées au même endroit, donc elles ne seraient pas très utiles, quand on observe maintenant la répartition géographique de ces justices, eh bien, on voit qu'elles sont présentes absolument partout sur le territoire. Alors, j'ai réalisé différentes cartes, un travail un peu fastidieux, il a fallu que je reprenne donc la liste de toutes les justices seigneuriales. J'ai pris trois départements, donc là, nous sommes dans le département de l'Ain. Et grâce à l'inventaire des justices qui a été réalisé aux archives départementales il y a peu de temps, donc j'ai fait figurer par un point noir toutes les justices seigneuriales, uniquement ici les justices dont les archives ont été conservées. Donc c'est un minimum, hein. Il y a peut-être effectivement d'autres justices qui ne sont pas représentées parce qu'on n'a pas conservé de documents. Mais je pense que la carte effectivement parle d'elle-même, hein. Vous voyez que quasiment toutes les paroisses, ou au moins une sur deux, possèdent donc une justice seigneuriale. J'ai fait figurer par ces petits carrés les justices royales, hein. Et on voit tout de suite effectivement la proportion qui est à l'avantage des justices seigneuriales, très peu de justices royales, et par contre des justices seigneuriales qui sont absolument partout. Un deuxième exemple, dans le département du Rhône, eh bien, on observe également une répartition relativement homogène et équitable de ces justices. Alors, bien sûr, on pourrait étudier cette carte un peu plus en détail. Pourquoi, effectivement, une forte présence plutôt ici? Bon, ben, il y a des éléments, bien sûr, hydrographiques, des éléments liés à la topographie. On voit qu'effectivement certaines zones sont un petit peu moins représentées. Ça peut être aussi un problème tout simplement de conservation de sources. Hein, peut-être que pour certaines régions, effectivement, les sources ont été un peu moins conservées. Et puis enfin, dernier exemple que je connais bien, sur lequel je travaille actuellement beaucoup. Donc là, le département de l'Indre-et-Loire, donc la Touraine, donc à quelque chose près. Alors c'est peut-être un petit peu moins impressionnant. Donc vous voyez ici, actuellement, je suis en train de dépouiller tous les fonds des justices seigneuriales de l'Indre-et-Loire, tous les petits fonds. Et j'en suis arrivé pour l'instant à un total de 200 justices seigneuriales que j'ai représentées donc ici. Et quand on indique, vous voyez à côté en noir, quand on représente en noir les zones qui ne sont pas couvertes, qui ne possèdent pas de justice seigneuriale, on constate finalement qu'il n'y a pas de ce que je pourrais appeler de désert judiciaire hein, dans cette province au XVIIIe siècle. Quasiment toutes les paroisses, ou en tout cas une grande majorité d'entre elles, ont un tribunal à proximité. La zone qui est peut-être un petit peu moins dépourvue, bah, c'est là où se trouve la capitale de la province, la Touraine, et la ville de Tours aujourd'hui. Donc effectivement, la présence d'un présidial, d'un important tribunal, peut expliquer peut-être cette zone effectivement un peu moins marquée par la présence des justices seigneuriales. Et puis également, certaines zones un peu plus vides s'expliquent par la présence de grands tribunaux seigneuriaux, notamment les duchés pairies, hein, et le fameux duché Pairie-Lavalière que j'ai étudié, vous voyez, se trouve ici. Et il a tendance à faire le vide, vous voyez, par exemple, autour de lui. Hein, effectivement, ce tribunal, qui équivaut quasiment à une justice royale, explique qu'à proximité, les justices seigneuriales fonctionnent de manière beaucoup moins importante. Donc, je pense que de ces cartes, on peut tirer deux enseignements principaux, à savoir que, effectivement, ces justices fonctionnaient. Donc, d'abord, elles étaient présentes un peu partout, et surtout, on peut en conclure qu'elles fonctionnaient dans un cadre géographique très restreint. Hein, chaque justice avait un territoire de juridiction relativement peu important. Ça présente, à mon avis, deux avantages. D'abord, pour le personnel judiciaire, ça lui permettait d'avoir une excellente connaissance du territoire soumis à sa juridiction. Et bien sûr, l'avantage était surtout pour les justiciables. Les justiciables, on le voit bien sur ces cartes, n'avaient jamais ou n'étaient jamais très loin de leur juge naturel. Et en particulier, les ruraux, on peut dire qu'ils n'avaient jamais besoin d'aller en ville pour régler leurs conflits et leurs problèmes judiciaires. En général, en moins d'une journée de marche, on pouvait trouver effectivement un juge seigneurial. Donc on voit bien effectivement la proximité et le côté pratique de ces justices. Toujours sur l'aspect géographique ou effectivement matériel en l'occurrence, ces justices, elles avaient également dans chaque ressort, dans chaque seigneurie, elles avaient un cadre matériel adéquat. Ça veut dire effectivement que géographiquement, dans la seigneurie, on savait où aller pour régler ces litiges. Donc la plupart des seigneuries possédaient un auditoire, un palais de justice, une chambre de justice, le vocabulaire pouvait être différent, et avec toutes les commodités, entre guillemets, à savoir une salle d'audience et parfois même un greffe et une prison. Ces lieux de justice, comme on peut les appeler, étaient très souvent situés au cœur des villages, au cœur des ressorts, et en général toujours situés à proximité des quartiers les plus actifs. Hein, très souvent, le palais de justice se trouve à proximité du champ de foire. Et d'ailleurs, très souvent, dans ces justices, le jour de l'audience correspond exactement au jour du marché. Donc il y a vraiment une proximité ou un côté pratique de ces justices qui fonctionnent véritablement et qui se fondent dans le vécu, effectivement, de la population. Voilà pour la proximité géographique. La proximité maintenant temporelle. Ces justices, elles fonctionnaient de manière très régulière. Donc il y avait des audiences, donc les audiences ordinaires. Alors il pouvait y avoir jusqu'à plusieurs sessions judiciaires par mois, alors parfois simplement dans les plus petites justices, plusieurs sessions judiciaires par an. Mais il faut savoir qu'en dehors de ces justices, pardon, de ces audiences, eh bien les justices fonctionnaient, je dirais, de manière continue. N'importe quand, on pouvait solliciter le juge ou les différents officiers seigneuriaux. On peut donc dire que le service était continu dans ces justices. Donc il n'y avait pas de difficulté pour trouver effectivement ces justices et pour pouvoir régler un litige en l'occurrence. Je vais aller directement, j'aurais pu vous en dire un petit peu plus sur la proximité temporelle, je vais aller directement à la dernière, au dernier, dernier aspect de la proximité, donc une proximité relationnelle, ce qui me paraît encore plus important que tout le reste. Premièrement, les justices seigneuriales fonctionnaient avec un personnel très restreint, c'est-à-dire un juge, un procureur fiscal et un greffier, donc une équipe de trois, avec autour éventuellement quelques auxiliaires, c'est-à-dire des huissiers, des notaires. Autrement dit, contrairement aux justices seigneuriales, qui étaient souvent composées d'un personnel extrêmement important, les tribunaux seigneuriaux étaient, à mon avis, très efficaces parce qu'ils étaient constitués d'une équipe très resserrée. Deuxièmement, ce personnel était très stable. On constate effectivement, quand on étudie la carrière des officiers seigneuriaux, eh bien, que les officiers seigneuriaux restent très longuement dans leur charge. Ça représente, à mon avis, un avantage. Ces officiers sont des personnes connues Et ces officiers, par leur expérience, ou plutôt par leur longévité, acquièrent également une expérience importante dans leur travail. Ces officiers également étaient recrutés la plupart du temps sur place et étaient d'ailleurs également établis sur place. Alors, Benoît Garneau ici même vous a parlé de ces juges qui venaient de la ville et qui allaient effectivement de temps en temps instrumenter dans les campagnes. Ça existe effectivement dans certaines régions, mais c'est absolument pas le cas général. Bien souvent, les juges seigneuriaux sont issus des seigneuries ou travaillent en tout cas ou habitent dans les seigneuries pour lesquelles ils instrumentent. Donc, ça veut dire que les officiers seigneuriaux étaient parfaitement insérés dans la vie de leur juridiction et là encore, ils avaient une très bonne connaissance du terrain. Dernier point, ces hommes étaient également, pour la plupart d'entre eux, appartenaient pour la plupart d'entre eux au monde des notables. Ce qui renforçait, à mon avis, leur crédibilité et leur respectabilité aux yeux des justiciables. Hein, ils possédaient en quelque sorte une autorité morale qui facilitait l'acceptation des décisions rendues. Vous voyez que finalement, à travers tous ces points, hein, on n'est pas très loin finalement des justices de paix. Hein, et d'ailleurs, certains historiens vont jusqu'à assurer, ou en tout cas, considérer qu'il y a une analogie, même une continuité très forte entre les juges de paix qui vont effectivement peupler les campagnes à partir de 1790 jusqu'en 1958, hein, c'est relativement récent. Donc proximité effectivement qui s'explique par les différents éléments que je vous ai présentés, et également par le fait que les juges seigneuriaux étaient des individus qui cherchaient avant tout la conciliation. Hein, bien loin de vouloir sanctionner à tout prix, les juges seigneuriaux sont avant tout effectivement consultés pour concilier, et pas toujours pour sanctionner, et ça c'est très révélateur, ou symptomatique en tout cas du travail des juges de paix. Pour finir donc ce tour d'horizon historiographique, je dirais donc que, contrairement à ce que les historiens ont fait très très longtemps, on aurait tort de dédaigner et de snober, entre guillemets, les fonds de ces justices seigneuriales. Ce ne sont pas des justices incompétentes ou qui fonctionnent très très mal. On peut donc effectivement ne pas hésiter à puiser et à utiliser les sources et les documents réalisés, conçus par ces justices seigneuriales. Et notamment quand on veut travailler sur la violence au village, je pense que ces sources sont d'un intérêt très important. La raison, elle est très simple. Comme je vous l'ai montré, les tribunaux seigneuriaux existaient partout en France avant la Révolution. Ils étaient très nombreux et on l'a vu, ils étaient implantés partout dans le territoire. Donc la conséquence est toute simple, c'est devant les juges seigneuriaux que les ruraux, notamment, et que la majorité de la population, eh bien, réglaient au quotidien l'essentiel des litiges et des difficultés. Donc continuons dans la logique. Si on veut connaître effectivement la violence au village ou la violence dans les zones rurales, on a effectivement énormément de chances de trouver des éléments de réponse dans les sources des justices seigneuriales. Je pense qu'effectivement, il est inutile de se tourner du côté des fonds des parlements ou des présidiaux, où là, on ne va pas trouver les petites affaires du quotidien et la violence, je dirais, la violence ordinaire. De même, c'est au niveau des justices seigneuriales qu'il y a un moindre risque d'évaporation des affaires. On sait bien que dans les tribunaux royaux, un certain nombre d'affaires ont disparu entre le dépôt de la plainte et sa conclusion réelle. Donc je me fais vraiment là le défenseur des justices seigneuriales et en l'occurrence, je pense que pour aborder ce thème des conflits et des violences dans le monde rural, les sources produites par les justices seigneuriales sont des sources effectivement très intéressantes. Alors je vais essayer d'illustrer donc cette conclusion à travers d'abord donc la présentation de mon travail donc sur la justice seigneuriale du duché Péry de la Vallière au XVIIIe siècle. Alors, pour situer d'abord peut-être un peu les choses, le duché Péry de la Vallière donc se trouve au nord du département de l'Indre-et-Loire aujourd'hui et c'est une terre relativement importante qui couvrait environ une trentaine de paroisses aujourd'hui, enfin autrefois et une quarantaine de communes aujourd'hui. Et c'est une terre qui avait la particularité d'être à cheval sur trois provinces, à savoir le Maine, l'Anjou et la Touraine. Donc une sorte de zone de marche aux confins de la généralité de Tours. Donc vous voyez un espace relativement vaste qui s'étend sur quasiment une cinquantaine de kilomètres et un territoire dans lequel fonctionnaient deux tribunaux principaux, Donc c'est sur ces tribunaux que j'ai travaillé. Donc la justice d'abord de Château-Lavalière, qui était la justice principale, une justice secondaire, la justice de Saint-Christophe, aujourd'hui Saint-Christophe-sur-le-Nez, et enfin il y avait une troisième justice qui dépendait de la deuxième, à savoir la justice de Marçon. Donc vous voyez, Marchon, Château-de-Loire, on est dans la Sarthe. Ici, nous sommes dans l'Indre-et-Loire aujourd'hui, et là, nous sommes dans le Maine-et-Loire. Donc, vous voyez, une justice à cheval sur plusieurs départements à l'époque. C'était une justice qui avait sous sa responsabilité, pourrait-on dire, à peu près 15 000 habitants au milieu du XVIIIe siècle. Donc, un ressort relativement important. Cette justice avait, comme toutes les justices seigneuriales, des compétences très larges, hein, j'y reviens pas, donc à la fois la haute, la moyenne et la basse justice. On y réglait absolument tous les types de contentieux. On y faisait également la réglementation de la vie quotidienne, donc ce qu'on appelle la police et l'administration. Et puis enfin, petite particularité, la présence d'une importante forêt autour de Château-Lavalière, forêt seigneuriale, explique la présence à Château-Lavalière, donc à côté du tribunal seigneurial, la présence donc d'une maîtrise particulière des eaux et forêts, donc qui avait la compétence sur toutes les affaires relatives donc au domaine des chasses, de la pêche, etc. Alors, j'ai étudié de manière exhaustive, hein, toutes les sources produites par ces deux tribunaux. Au total, plusieurs milliers d'affaires contentieuses. Alors, pour les affaires criminelles, j'ai absolument tout étudié, je n'ai rien laissé de côté. Pour les affaires civiles contenues dans les registres d'audience, là, j'ai été obligé de faire des choix et de procéder uniquement sur la forme de sondage. Et puis enfin, pour justement l'activité des eaux et forêts, là, j'ai également fait un dépouillement exhaustif. Alors, quels sont les résultats qui ressortent de ce dépouillement exhaustif? Autrement dit, que nous disent ces résultats justement sur la présence de la violence et des conflits dans les campagnes, en l'occurrence ici, du duché-pairie de la Vallière? Donc, un premier tableau où j'ai réparti donc l'ensemble des crimes et délits poursuivis par la voie criminelle. Il faut savoir qu'avant l'Ancien Régime, donc, on pouvait choisir soit la voie criminelle, qui était souvent pour les crimes les plus importants, soit la voie civile. Donc, je commencerai par les procès suivis par la voie criminelle, donc dans les deux principaux tribunaux du duché-pairie-de-la-Vallière, à savoir, pardon, du duché-pairie-de-la-Vallière, oui, à savoir Château-Lavalière et Saint-Christophe. Alors, j'ai réparti l'ensemble des crimes et délits en trois catégories, c'est une répartition relativement habituelle. Donc, premièrement, toutes les atteintes contre les autorités, ou tous les crimes et délits contre les autorités, crimes et délits contre les biens, et crimes et délits contre les personnes. Alors, bien sûr, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les crimes et délits contre les personnes, et vous constatez que, eh bien, contre les personnes, ou les délits contre les personnes, ce sont ceux, la catégorie qui arrive en première position, puisque les violences verbales, les violences physiques, les homicides simples et aggravés, eh bien, représentent dans les deux tribunaux plus de la moitié des affaires criminelles. Donc, plus de la moitié des affaires criminelles sont effectivement des affaires de violence. Alors, violence, effectivement, au sens large, violence verbale, que j'aurais tendance à exclure donc des violences proprement dites, violence physique et, je dirais, les violences aggravées qui peuvent se terminer donc par des morts. Donc ici. Alors, quand on observe effectivement en détail ces résultats, on peut effectivement, en tout cas, avoir cette impression d'une violence très importante dans les campagnes autrefois. Hein, ces chiffres peuvent nous donner l'impression d'une omniprésence de la violence et des conflits dans les campagnes du duché-pairie-de-la-Vallière et plus largement dans les campagnes en France à l'époque. Donc, pour reprendre peut-être un chiffre un peu plus précis, les violences verbales, physiques, vous voyez, c'est quasiment 92,3%, 92% donc de l'ensemble des atteintes contre les biens, et les crimes de sang, c'est simplement 6,2%. Donc une prédominance de la violence, mais finalement une prédominance de la petite violence, de la petite criminalité. La grande criminalité, effectivement, touche relativement peu les campagnes du duché-pairie de la Vallière. Alors, il faut savoir chercher la violence un peu partout et parfois entre les lignes. La violence, elle est également dans certains crimes et délits contre les autorités. Effectivement, dans ce que j'ai appelé l'ordre politique, se cache un certain nombre de rébellions à justice, c'est-à-dire d'huissiers, qui sont malmenés dans l'exercice de leur charge. Donc, dans les calculs que je vous présenterai tout à l'heure, j'ai ajouté également ces violences très particulières, donc les violences contre les autorités, en tout cas contre les représentants de l'autorité, à savoir ici les huissiers. Voilà, je passerai rapidement sur le reste parce que ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. En deuxième position, donc les délits contre les autorités. Et puis seulement, pourrait-on dire, contre les biens, donc les vols essentiellement, qui représentent à peine une affaire, ou en tout cas une affaire poursuivie sur cinq. Donc, de manière générale, ce tableau donne de la criminalité légale une image bien différente de celle qui apparaît à travers les fonds des cours royales, notamment des parlements. En effet, dans les années 60-70, quand on a travaillé sur la violence, on a essentiellement travaillé sur les fonds des parlements, et dans ces parlements, on a trouvé essentiellement des délits contre les personnes. Donc on avait l'impression, effectivement, que c'était la cause principale des poursuites criminelles. Quand on se penche, je dirais, au ras du sol, au ras des campagnes et dans les tribunaux seigneuriaux, on constate qu'on n'a pas du tout la même image de la criminalité. On a effectivement plutôt ici une criminalité violente, hein, et non pas une criminalité constituée de viol, pardon, de vol, lapsus. Alors, nos résultats donnent, ou plutôt tentent à confirmer, malgré tout, donc l'importance numérique des actes violents au sein du monde rural, mais encore une fois, hein, une violence qui est surtout dominée par le petit criminel et non pas le grand criminel. Alors, l'impression donnée par ces chiffres doit toutefois, à mon avis, être nuancée. On pourrait effectivement avoir l'impression d'une omniprésence de la violence. En réalité, quand on étudie de manière très minutieuse les plaintes, les dépositions des témoins, eh bien, on constate, et là, je ne vais pas m'attarder parce que Benoît Garneau a beaucoup abordé ce thème lorsqu'il est venu parler devant vous, on observe effectivement que cette violence, elle n'est absolument pas impulsive, elle n'est pas sanguinaire. En réalité, c'est une violence ritualisée, c'est une violence contrôlée. Et effectivement, à travers les actes qu'on possède, on observe une véritable, je dirais, gestuelle agressive. Les coups ne sont pas portés n'importe comment. On ne se bat pas ou on n'est pas violent sans raison. Hein, donc, il ne faut pas effectivement tirer de ces chiffres l'impression d'une violence totalement incontrôlée et effectivement de brute sanguinaire ou de brute impulsive. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important de le signaler. Mais je ne développe pas ce point, puisqu'encore une fois, Benoît Garneau vous a longuement expliqué cela. Alors, je poursuis la traque de la violence, parce qu'effectivement, si on en reste là, on est peut-être passé à un certain nombre d'éléments. La violence, on la trouve aussi parfois dans les actes civils, c'est-à-dire dans les... Pardon, je reviendrai, oui, je vais faire ça d'abord. Donc, dans les actes civils... Donc, dans les actes civils, c'est-à-dire toutes les affaires qui sont jugées au tribunal le jour des audiences. Alors là, par contre, la présence de la petite criminalité et de la violence est relativement peu importante. Aux audiences, on vient essentiellement régler les problèmes de dette. Hein, vous voyez que c'est quasiment plus de 60% des causes jugées aux audiences. On vient également au tribunal pour régler ses problèmes de propriété. Les droits seigneuriaux sont également défendus de manière relativement peu importante. Quant à la petite criminalité, c'est-à-dire les actes de violence verbale et les actes de violence physique, eh bien là, la part est relativement faible. Vous voyez ce qui pose aussi, ce qui pose effectivement le problème de l'utilisation des sources. Ceux qui travailleraient que sur les registres d'audience pourraient avoir une vision totalement biaisée de la violence dans les campagnes autrefois. Hein, il faut effectivement tâcher de croiser les sources et d'utiliser le maximum d'entre elles. Donc, dans mon calcul de tout à l'heure, ça apporte quelques affaires supplémentaires, mais c'est relativement peu important. De même que dans les affaires jugées devant la maîtrise particulière des eaux et forêts de Château-Lavalière, eh bien, la place de la violence est également relativement peu importante. Elle apparaît uniquement sous la rubrique « voies de fait contre les gardes ». On a vu tout à l'heure que les huissiers pouvaient être malmenés dans l'exercice de leurs fonctions, donc pouvaient être victimes de violences physiques ou verbales, eh bien, ça c'est assez connu, les gardes forestiers, eux aussi, étaient parfois victimes de violences, d'injures, de coups dans l'exercice de leurs fonctions. Notamment lorsque les gardes essayaient de pratiquer des saisies de bétail, saisies d'instruments tranchants, etc., ou lorsqu'ils faisaient des perquisitions, il pouvait être très mal reçu et même être violenté par les justiciables mécontents. On observe que ces causes sont quand même relativement peu importantes. Vous voyez, on est à peine autour de 4%. Donc j'en tiendrai compte également dans mes chiffres et dans mes calculs, mais ce résultat ne change pas fondamentalement les chiffres de tout à l'heure, où là on avait effectivement l'essentiel de notre violence. Sinon, pour parler rapidement des autres résultats, vous voyez qu'en matière d'eau et forêt, la cause principale de poursuite, c'est tout ce qui a un rapport avec le bois, donc c'est-à-dire les coupes illégales, les vols de bois, le package illicite. Donc ça, c'est, je dirais, l'essentiel du travail des gardes forestiers. On voit bien, au passage, à travers ces chiffres, l'importance du bois à l'époque, hein, dans les sociétés de l'époque moderne notamment, des bois et des espaces boisés qui étaient soumis à de très fortes pressions, et on le retrouve effectivement dans la criminalité poursuivie à l'époque. Et puis on voit également la place aussi tenue par la chasse, les poursuites effectivement pour faits de chasse, donc chasse illicite, qui était également poursuivi. Donc le droit de chasse des seigneurs, le droit de chasse des propriétaires de fiefs était assez défendu ou relativement défendu à l'époque. Donc je dirais, pour terminer ce tour d'horizon donc de ces différents chiffres, donc qu'en matière de violence, les tribunaux du duché Paris-Lavallière traitent majoritairement des affaires donc relevant de la petite criminalité, donc essentiellement des violences verbales et des violences physiques. Les sources étudiées donnent donc l'image d'une violence ordinaire, bien différente de celle qui apparaît à travers l'activité des cours royales d'appel. Cette impression d'une violence essentiellement ordinaire est par ailleurs confirmée par l'étude des lieux et des temps de la violence. De même, lorsqu'on étudie le profil des victimes et des auteurs de violence, on retrouve bien cette idée d'une criminalité du connu, d'une criminalité de la sociabilité. Je veux dire par là que le profil type du violent dans les campagnes du duché Paris-Lavallière, eh bien, c'est un homme assez jeune, un homme issu du peuple, et surtout un individu qui commet un acte violent de manière occasionnelle. On ne retrouve pas effectivement de caractériel ou de violent invétéré, comme j'ai pu en signaler deux dans mon livre, mais c'est vraiment des exceptions. Le fameux seigneur de la carte, par exemple, qui a son actif des dizaines et dizaines de procès, c'est presque une exception par rapport effectivement au profil type de l'époque. Ainsi, comme Robert Michemblay l'a remarqué ou l'a indiqué dans un livre récent, la violence meurtrière, pour prendre la plus spectaculaire, c'est essentiellement un crime de mal, je cite Robert Michemblay, plus précisément de jeunes hommes à marier. De même, quand on observe le profil sociologique des victimes, eh bien, elles appartiennent à absolument toutes les catégories sociales. Donc, les violents et les victimes de violences sont donc bien des individus ordinaires. On trouve bien parmi eux quelques étrangers, qui d'ailleurs bien souvent sont punis de manière beaucoup plus sévère que les autochtones, mais la plupart du temps, les victimes et les auteurs de violences vivent sur place à l'intérieur de la seigneurie. Pour terminer cette partie, donc cette deuxième partie, avant de voir d'autres exemples et de remonter jusqu'au Moyen-Âge, donc, alors je ne vais pas vous faire apparaître, je vais simplement vous donner donc des chiffres. Je me suis livré à un petit exercice périlleux, j'en conviens. Donc, les données et les chiffres que je vais vous donner maintenant sont à prendre, bien sûr, avec beaucoup de précautions. Mais à partir de tous les chiffres donc, que j'ai pu vous présenter, j'ai essayé d'élaborer un taux d'homicide. Michel Nassier vous a peut-être expliqué effectivement en quoi ça consiste, puisque son livre effectivement repose en partie donc sur ce genre de calcul. Donc taux d'homicide pour 100 000 habitants. Alors quand je compte tout ce que j'ai pu vous présenter, donc les homicides que je trouve dans les affaires criminelles, dans les affaires des eaux et forêts, dans le civil il n'y en a pas, on arrive à une moyenne de 0,5 homicides par an, pour un total, vous voyez, de 10 000 habitants, ce qui nous fait un taux de 5 pour 100 000. Donc, un taux d'homicide de 5 pour 100 000. Aujourd'hui, en France, la comparaison n'est pas évidente, mais je vais vous donner quand même ce chiffre, le taux d'homicide en France est de 0,7. Donc, on a quand même effectivement là l'impression d'une société plus violente, en tout cas à travers le calcul ou le comptage des homicides, plus violente effectivement qu'aujourd'hui. J'ai fait le même calcul cette fois pour les homicides, mais pour les violences physiques donc uniquement les affaires de coups et blessures. Là, j'arrive à une moyenne, donc toujours dans le ressort de mon duché Péry-Lavallière, à une moyenne de 5,4 affaires par an. Alors, rapporté à 1000 habitants, ça nous fait une moyenne de 0,5 pour 1000 habitants. Donc, ce qu'on pourrait appeler un taux de violence physique de 0,5 pour 1000 habitants. Alors, toujours essayons de faire une comparaison avec aujourd'hui, mais si encore une fois, c'est très, très critiquable. Aujourd'hui, à partir des chiffres, des faits constatés, aujourd'hui, on est plutôt à un taux de violence physique de 5 pour 1000. Je vous ai parlé, dans le duché Péry-Lavallière, de 0,5 pour 1000. Alors, il y a peut-être une petite contradiction, un taux d'homicide qui semble être plus important, un taux de violence physique qui semble être plus faible. Alors, je ne vais pas donner totalement foi dans mon chiffre de 0,5 pour 1000. Il est évident qu'à l'époque, toutes les affaires de coups et blessures n'étaient pas portées devant les tribunaux. On vous a expliqué ici même que beaucoup d'affaires étaient réglées par la voie infrajudiciaire. Donc, il est évident que ce chiffre de 0,5 est sûrement minoré et que la réalité était beaucoup plus importante. Mais vous voyez, quand on parle d'une société d'autrefois hyper violente et de ruraux hyper violentes, je pense quand même que ces chiffres relativisent un peu, pardon, le constat. Alors, mes chiffres sont peut-être pas bons, donc on va essayer maintenant, ce sera ma dernière partie, on va essayer de les confronter à d'autres chiffres que j'ai pu élaborer à partir d'autres recherches. Donc là, je vais me livrer à une sorte de panorama de la violence dans les campagnes depuis le XIVe siècle, hein, c'est-à-dire effectivement les premières études sur les justices seigneuriales portent uniquement sur cette période, donc du XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Donc je reviendrai jusqu'à la période que je viens de vous présenter. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais ces beaux tableaux et ces beaux chiffres, entre guillemets, eh bien, ils sont malheureusement très difficiles à obtenir pour les périodes les plus reculées. Effectivement, les justices seigneuriales, comme beaucoup de fonds judiciaires, sont très mal conservées pour les périodes les plus reculées. Et effectivement, au XIVe, XVe, XVIe siècle, on a malheureusement très très peu de documentation à la disposition. On peut donc très difficilement arriver à des calculs ou à des pourcentages aussi précis peut-être ou aussi fiables que ceux que je vous ai présentés. Bon, je vais quand même tenter l'expérience, donc à partir de travaux de différents chercheurs que je vous citerai au fur et à mesure. On va commencer d'abord donc par l'Anjou et par le Maine, donc étudiés par Isabelle Mathieu dans une thèse relativement récente. Alors Isabelle Mathieu, elle a procédé de la manière suivante. Elle a étudié en détail donc le fond des archives de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de la Mayenne, et elle a essayé de rechercher tous les registres d'audience des justices seigneuriales qui ont pu exister. Donc elle a essayé de faire un relevé exhaustif de toutes les justices qui ont fonctionné. Elle a trouvé à peu près 200 documents, hein, ce qui est relativement peu sur l'ensemble effectivement de la période, mais elle avait quand même un stock, je dirais, de 27 000 affaires. Donc, sur l'ensemble de ces 2 siècles, pour ces deux provinces, elle a pu trouver effectivement un ensemble de 27 000 affaires judiciaires traitées par les tribunaux du Maine et de l'Anjou à l'époque. Et dans cet ensemble, eh bien, on trouve exactement 152 affaires de violence, ce qui représente 0,6% du stock d'affaires qu'elle a pu effectivement retrouver. Donc, des violences verbales, des violences physiques, uniquement 152 affaires. Je pourrais vous donner le détail. Mais on va bien voir tout de suite que, bien sûr, les chiffres nous montrent une réalité tronquée. Elle a trouvé 2 empoisonnements en 200 ans sur 2 provinces, ça paraît relativement peu, 4 infanticides, 1 centaine d'injures verbales et réelles, c'est-à-dire de coups et blessures. Alors, là, totalement impossible de se livrer à des calculs comme ceux que j'ai pu faire tout à l'heure. Je citerai simplement ce que Isabelle Mathieu a pu dire. Donc voilà ce qu'elle dit. Hormis quelques belles affaires, entre guillemets, l'ordinaire de l'exercice des magistrats seigneuriaux est plutôt composé d'affaires que d'aucuns pourraient qualifier de peu d'importance. La vie dans les campagnes angevines et dans le Maine y apparaît, en apparence du moins, relativement paisible, scandée de temps en temps de petits litiges, de menues fraudes et de quelques bagarres. Donc, même si ces chiffres sont pas faciles à utiliser, elles semblent aller plutôt dans le sens de ce que j'ai pu vous présenter tout à l'heure. Alors, elle met quand même un gros bémol à sa conclusion, en précisant qu'à l'époque, le recours à la justice n'était sûrement pas aussi systématique que ce qu'il deviendra plus tard, et que ces chiffres, finalement, ne reflètent pas totalement la réalité. Soyons téméraires et continuons. Une autre étude, celle de Laetitia Cornu sur le Velay au XVe siècle. Laetitia Cornu, elle a eu la chance de travailler sur un registre, hein, donc le registre des causes d'un petit tribunal, et elle a pu relever dans ce registre, pour une population d'à peu près donc trois villages, donc une population relativement un peu importante, elle a pu relever sept affaires seulement de violences physiques. Alors, j'en reviens à mon petit calcul de tout à l'heure. Connaissant la population donc de cette justice, on en arrive à un taux de 0,6 pour 1000, donc 0,6 pour 1000 violences physiques. Alors là, il y a un gros bémol. Le problème, c'est que la justice étudiée par Laetitia Cornu n'est pas une haute justice, donc elle ne devait pas connaître les affaires les plus graves. Il n'empêche, Laetitia Cornu conclut de la sorte, face à une telle description d'une société rurale, sinon paisible, du moins relativement tranquille, il n'est pas possible de souscrire à l'idée d'une société médiévale violente, d'une violence partie intégrante de la société de la fin du Moyen-Âge. Pierre Charbonnier, au XVIe siècle, on va pouvoir avoir des données un petit peu plus précises. Je vais vous donner tout de suite le fameux, c'est un tableau récapitulatif, où tous ces chiffres, ah, il a disparu. Ah voilà, voilà. Donc pour l'Anjou et le Maine, vous voyez, je reprends, donc l'Anjou et le Maine, violence physique incapable de calculer, homicide là également impossible. Donc une première donnée, mais je mets effectivement ce résultat entre crochets parce qu'effectivement c'est une petite justice, donc ce chiffre de 0,6 est sûrement beaucoup trop faible. Alors Pierre Charbonnier, par contre, lui a eu la chance de travailler en Auvergne sur deux registres de la justice de Murol, en 1584 et en 1622. Donc je vais simplement vous présenter ces résultats sans trop détailler. Donc Pierre Charbonnier, ou plutôt à partir des résultats de Pierre Charbonnier, j'ai pu calculer donc un taux de violence physique de 4,7 pour 1000 pour Murol en 1584 et de 5 pour 1000 en 1622. Par contre, il ne signale dans son registre aucun homicide. Donc bon, 0% ou 0 pour 100 000, ça me paraît faible. Donc on va dire effectivement qu'on a plutôt une absence de données. Alors, on commence à avoir une certaine cohérence, hein, vous voyez, à quelques années d'intervalle, des chiffres qui sont relativement proches. Ensuite, pour le XVIIe siècle, malheureusement, il y a eu très peu de travaux réalisés sur cette époque. Un travail relativement récent, donc c'est celui d'Olivier Wagner sur Malesherbes. Alors, Olivier Wagner sur Malesherbes, il nous dit simplement qu'il n'a trouvé dans sa justice aucune affaire d'homicide. Donc là aussi, on aurait un taux proche de zéro. Malheureusement, il évoque effectivement un certain nombre d'affaires donc de coups et de violences, mais il ne donne aucun chiffre, donc je n'ai pas été en mesure de faire le moindre calcul. Alors, j'ai indiqué ici, mais là, on est un petit peu hors sujet, Saint-Germain-des-Prés, sauf à considérer que Saint-Germain-des-Prés, c'était encore la campagne à l'époque, ce qui n'est pas totalement imbécile, mais bon, il y a quand même la proximité de Paris qui doit changer un peu, modifier un peu la donne. Donc, au XVIIe siècle, donc une étude a été faite sur la justice de Saint-Germain-en-Laye, là, une étude très, très précise, et par Bruno Isblett, pour être précis. Et là, on obtient effectivement un taux de violence de 3 pour 1000, donc une certaine cohérence par rapport aux chiffres précédents, et par contre, un taux d'homicide très élevé de 13,2 pour 1000. Vous vous rappelez que tout à l'heure, j'étais à 5 pour 1000 pour le duché Péry de La Vallière. Bon, ces chiffres ne sont pas totalement incohérents. La proximité peut-être de la capitale peut expliquer effectivement ces chiffres. Et puis enfin, pour le XVIIIe siècle, et là, c'est vraiment la période pour laquelle on a le plus de données et le plus de chiffres. Donc, trois études qui viennent compléter la mienne. Donc, premièrement, une étude réalisée sur la seigneurie de Saint-Laguerre ou Saint-Lager dans le Beaujolais. Donc, une étude réalisée par un étudiant japonais, d'ailleurs. Donc, il a pu obtenir, enfin, plutôt à partir des chiffres qui sont dans son étude, j'ai pu calculer un taux de violence physique de 0,5 pour 1000, donc exactement le même que celui que j'avais pu obtenir pour le duché Péry-Lavallière, et un taux d'homicide de 3 pour 100 000. Donc là encore, je trouve une certaine cohérence dans ces chiffres. Une étude également très pointue, donc une thèse de doctorat sur la justice de Lamballe. Donc quelqu'un qui a étudié de manière exhaustive toutes les affaires criminelles portées devant la justice de Lamballe. Alors lui, il obtient un stock, je dirais, de 404 affaires. Dans ces 404 affaires, 300 affaires de coups et blessures, ce qui nous donne, compte tenu de la population de l'époque, alors bien sûr, c'est là que le bât blesse, il est très difficile de connaître exactement le nombre de justiciables pour chaque juridiction, donc c'est plus ou moins approximatif. on obtient donc un taux de violence physique de 0,2 pour 1000. Quant au taux de criminalité, ou le taux d'homicide plutôt, on serait autour de 3 pour 100 000. Et puis enfin, un dernier exemple, mais qui est un peu particulier, Belle-Île-en-Mer. Donc là, on est dans un cadre vraiment très particulier, un cadre plutôt isolé. On obtient un taux de violence physique extrêmement faible. Alors, est-ce que c'est lié aux conditions très particulières d'une société refermée sur elle-même, où il y a finalement un contrôle permanent de la population? Ou alors, est-ce qu'on peut imaginer, peut-on rêver une société dans ces îles beaucoup moins violente que sur la terre ferme? Donc, un taux effectivement de violence physique de 0,03. Et par contre, un taux d'homicide de 1,5 pour 100 000. Donc voilà, j'ai voulu compter. Je pense que ça apporte effectivement un certain nombre d'éléments. Et ça me permet de conclure de la manière suivante. À savoir, je pense effectivement que recourir au fonds des justices seigneuriales pour travailler sur la thématique des violences et des conflits dans les campagnes avant la Révolution, ça me paraît pas inutile et ça me paraît même être une démarche très enrichissante ou très productive. En effet, à travers donc ce petit panorama, je pense arriver à deux conclusions majeures. La première, c'est que la violence des ruraux français, et notamment la petite violence, donc mesurée à l'aune des fonds des justices seigneuriales, n'est sûrement pas aussi importante que cela. Sûrement pas aussi importante que ce qu'on a longtemps dit et écrit effectivement sur le sujet. Ainsi, pour reprendre une formule de Benoît Garneau, je cite, les sources judiciaires ne prouvent pas que la violence constitue une réalité aussi répandue qu'on le dit habituellement. Je pense effectivement que les chiffres ou les calculs que j'ai pu vous présenter vont effectivement dans ce sens. Et je pense que la conclusion est d'autant plus forte qu'avec les fonds des justices seigneuriales, on est certain d'être beaucoup plus proche de la réalité que lorsqu'on étudie, encore une fois, les fonds des grands tribunaux. Deuxième conclusion qui me paraît importante, c'est que, effectivement, les données présentées tendent à montrer que la violence des ruraux, mesurée encore une fois à l'aune des archives des justices seigneuriales, eh bien, semble décliner entre la fin du Moyen Âge et le XVIIIe siècle. Donc, c'est vrai pour les homicides, mais également, semble-t-il, pour les violences physiques. Alors, ces résultats semblent aller dans le sens de ces études que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir, effectivement, une étude qui montre que, globalement, à l'échelle de l'Europe, les taux d'homicide auraient diminué entre le Moyen Âge et la fin de l'Ancien Régime. Alors, bien évidemment, ces deux constatations amèneraient une multitude de questions. Où est l'explication du phénomène? Comment expliquer cette diminution de la violence? Je ne vais pas me lancer dans ces explications, je la laisse à d'autres. Plusieurs hypothèses ont été lancées depuis un certain nombre d'années, notamment celle de Michel Nassier, pour prendre les plus récentes. Je dirais simplement, pour terminer, ou j'espère simplement plutôt avoir démontré à travers mon intervention, que les sources des justices seigneuriales présentent de nombreux intérêts, notamment pour étudier la violence dans les campagnes autrefois, mais on pourrait également les utiliser de manière très profitable pour un tas d'autres thèmes. Hein, à travers ces justices seigneuriales, on peut effectivement retrouver un certain nombre d'informations sur à la fois la société, sur l'économie, sur la religion, sur la politique, sur les mentalités, sur les comportements. La liste n'est pas close. Donc, avis aux amateurs, n'hésitez pas à vous lancer dans ces justices seigneuriales, dans les fonds des justices seigneuriales, car ils ont beaucoup à nous apprendre. Voilà, je vous remercie.